voix nue. Cette semaine, Antoine Beauchamp rencontre Patrick Chauvel. Ce soir, la paix est fragile.
Bonsoir Patrick Chauvel.
Bonsoir.
Le temps passe trop vite, on est déjà au dernier soir de nos entretiens pour À Voix Nue. Hier, on a commencé à parler des autres façons que vous avez choisi de raconter les guerres que vous viviez, auxquelles vous assistiez, la vidéo. Vous avez également commencé à écrire des livres assez tard, au début des années 2000. Alors pourquoi avoir attendu autant pour raconter vos guerres et rapporter vos guerres, puisque le titre de votre premier livre, c'est « Rapporteur de guerre ».
Oui, parce que j'avais trouvé ce titre parce que je trouvais qu'il y avait trop de gens qui se disaient « reporteurs de guerre ». Donc je voulais me démarquer. Et il y a beaucoup trop de gens qui vont sur des terrains de guerre une fois pour mettre ça sur leur carte de visite. Il reste trois jours, et après ils en parlent pendant trois ans. La guerre, c'est, on n'est pas à Thoiry, quoi. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut étudier le pays, étudier les coutumes des gens pour comprendre, par respect pour les gens dont on va raconter leur histoire. C'est pas la nôtre, c'est la leur. Moi, j'ai beaucoup lu Gaston Boutoul, qui avait proposé une université sur la guerre. Hein, c'était l'étude de la polémologie, où il essaye de donner une explication à pourquoi la guerre existe depuis des milliers d'années. Pourquoi elle est naturelle chez l'homme, en fait. Mais c'est un phénomène important. Et il estimait qu'on étudie les maths, la philosophie, et on n'étudie pas, à l'université, le phénomène le plus important de l'humanité, qui est la guerre. Et on l'étudie pas. Alors que si on la connaissait mieux, peut-être qu'on pourrait l'éviter. Cela dit, en lisant ces livres, on s'aperçoit que c'est un peu inévitable. Mais c'est presque une question de il y a trop de monde. Donc à un moment donné, il y a un effet naturel de
une soupape
qui fait qu'il y a une autodestruction de l'être humain pour survivre, justement. Les animaux font ça, mais justement, normalement, on n'est pas des animaux, mais bon. Il y avait un type qui s'appelait Bertie à Beyrouth, qui était un gros monsieur en surpoids, adorable, qui aidait toujours tout le monde, qui était pharmacien, dans le quartier d'Acharfieh, le quartier chrétien. Et en 78, les Syriens ont attaqué à l'aube pour essayer de prendre le quartier chrétien. Et ce type, que je connaissais depuis des années, qui nous disait, voilà, prends un peu d'imodium, ça ira beaucoup mieux, ça va moins gargouiller, et qui s'occupait de nous, et qui était adorable, etc., et qui était extrêmement sensible, avec son énorme ventre, comme ça. C'est un type qui travaillait beaucoup, donc il se levait tôt. Il a surpris la première colonne syrienne qui descendait de l'immeuble risque sur le quartier. Il a sorti de son garage un pick-up avec une mitrailleuse de 50 à l'arrière. Personne ne savait qu'il avait ça dans son parking. Il s'est mis en travers et il a bloqué l'offensive syrienne en tirant sur eux. Évidemment, il a été tué. Mais il a permis aux chrétiens de s'organiser et de résister à la... Donc la guerre transforme les gens. Des gens... Vous n'imaginez pas une seconde qu'ils avaient cette violence ou ce courage ou cette saloperie. La guerre est un révélateur.
Pour en venir à ma question initiale, Patrick Chauvel, l'écriture, pourquoi vous avez tardé avant d'écrire et de raconter vos guerres à l'écrit?
C'est un éditeur et l'ami d'un éditeur, le père d'Antoine Nova, Pierre Nova, qui était lui-même producteur et écrivain. On discutait, il m'a dit, tu devrais écrire les histoires que tu me racontes. J'ai dit, mais j'avais zéro en orthographe, c'est pas pour rien que j'ai choisi la photo. Il m'a dit, si tu veux, j'écrirai avec toi. Donc il m'a présenté un éditeur, j'écrivais, ensuite il corrigeait. Et en fait, quand je lisais ce qu'il avait corrigé, ça m'allait pas du tout. C'était très très bien écrit, mais
c'était pas votre voix.
Donc j'étais très gêné, donc j'ai dit à l'éditeur, je suis pas d'accord avec son style. Et l'éditeur m'a dit, vas-y tout seul alors. En fait, c'est quand même Pierre Nova qui m'a permis de perdre ce complexe que j'avais. Du coup, je m'y suis mis en... Et voilà, et on a...
Il y a eu Rapporteur de la guerre d'abord, puis ensuite un livre que j'ai trouvé personnellement bouleversant qui s'appelle Sky, sur votre amitié avec cet Apache dont vous nous parliez en début de semaine, un soldat américain qui était mi-indien, mi-apache, mi-écossais, avec lequel vous avez eu une amitié très forte. Vous avez mis plus de 30 ans à raconter cette histoire et vous dites que raconter cette histoire vous a fait un mal de chien. Pourquoi ?
Parce que ça m'a fait revivre l'histoire, même si évidemment j'ai changé des dates et j'ai romancé, puisque c'est un roman basé sur une histoire vraie, mais j'avais pas envie de tout dire. Et c'est une histoire forte d'un héros malgré lui. Ça représente assez bien la guerre aussi. C'est un type qui ne voulait pas, qui ne savait même pas où était le Vietnam quand il s'est retrouvé dans la guerre. Et la rencontre improbable entre un Français de 19 ans et un Apache de 20 ans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ridicule comme scénario. Mais pourtant, ça s'est passé, quoi. Donc, voilà. Cette énorme femme, comme disait mon grand-père.
Qui était couchée dans votre chambre, dans le 16e arrondissement.
Qui buvait du thé. Oui. Pour en revenir à l'écriture, moi, j'aime raconter. Que ce soit en photo ou en écriture. Et c'est comme la vidéo. J'ai découvert la vidéo grâce à Tony Comiti. Et la télévision m'a permis après de faire plusieurs films avec mes camarades Antoine Nova et Sébastien Dozer qui eux ont produit et Antoine a réalisé le film Rapporteur des guerres. On trouvait pas d'argent pour faire ce film. Ils avaient un resto-bar qui s'appelait le Sherkan et c'est avec l'argent du bar qu'on a produit le film. D'ailleurs ils ont plusieurs restos à Paris dont le Cugini, qui est un restaurant italien. Et il y a une pizza où il y a marqué Pizza Doc au menu, qui vaut 3 euros de plus que les autres. Et en petit, il y a marqué pour financer les documentaires. Alors la Pizza Doc, on a calculé, je pense qu'avec les ventes qui se font spécifiquement sur... On pourra faire un 15 minutes en 2040, je pense.
Sinon, on peut envoyer tous les auditeurs de France Culture.
Voilà, allez manger une pizza doc au Cugini, qu'on puisse faire un grand film.
Ce qui est très intéressant, Patrick Chauvel, dans ce documentaire que vous avez fait avec Antoine Nova, qui s'appelle Rapporteur de guerre, c'est que vous posez des questions à vos confrères, à vos consoeurs, photoreporters de guerre. Et j'ai l'impression que vous leur posez des questions que vous vous posez, auxquelles vous n'avez pas de réponse.
Oui, la question c'est est-ce que ça sert à quelque chose ? Alors, ne pas le faire, on sait que ça servira à rien. Le fait que les armées, différents gouvernements essayent de nous empêcher d'aller sur le terrain, de contrôler la presse, c'est presque une décoration, parce que ça veut dire que ça sert à quelque chose, puisqu'ils ont peur de nous. Donc ça, c'est la première réponse. Après, trop d'images tuent l'image, trop d'informations, à un moment donné, les gens, ça les intéresse plus. Il y a un dosage à trouver, quoi, qu'on n'a jamais trouvé, en fait. Mais on continue à le faire parce qu'on travaille pas que pour la presse, on travaille aussi pour la mémoire collective. Et moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Je pense qu'il faut tout photographier, tout filmer, tout raconter. Par contre, pas forcément tout montrer à un moment donné. Il faut peut-être attendre. Suite, ouais. Moi, j'ai fait des photos affreuses que je ne montrerai jamais dans la presse, mais qui peuvent servir presque à un chirurgien, à la limite. Ou à une étude approfondie sur ce que l'homme fait à l'homme, enfin, etc. Plus tard, ou complètement hors contexte. C'est voilà, parce que je suis là, je suis un témoin. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'un des workshops que j'ai fait à Bayeux, enfin le workshop que j'ai fait à Bayeux, j'avais invité quelqu'un du service juridique du CICR et qui expliquait aux jeunes photographes comment comprendre et quelle était leur responsabilité par rapport au conflit. Quel type de conflit c'était ? Est-ce que c'est une guerre civile ? Et c'est une guerre entre pays, entre États ? Est-ce que c'est une épuration ethnique ? À quoi on assiste ? Comprenez à quoi vous assistez, car ça peut changer la responsabilité que vous avez en tant que témoin. Pas en tant que journaliste, mais en tant que témoin tout court. Est-ce qu'il faut prendre l'identité des morts ? Des gens torturés, comme un flic, si vous êtes le seul. C'est toujours la question qu'on pose aussi. Est-ce que tu aides les gens quand ils sont blessés ?
Est-ce qu'il faut intervenir, ouais.
J'interviens si je suis le seul à pouvoir le faire, bien sûr. un type qui a une hémorragie, s'il y a personne, je vais pas le prendre en photo. Je vais lui faire un garrot. Mais en général, on a à peine le temps de faire la photo qu'il est ramassé par ses camarades. Ils sont rarement seuls, les types. Mais effectivement, la question d'un rapporteur de guerre, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Ils répondent tous à leur manière. Il ressort de ce film que ce sont des gens sincères qui sont prêts à risquer leur vie pour aller au bout de leur passion, qui est de raconter l'histoire et de vivre l'aventure, bien sûr, hein, en prenant le truc très personnellement. Voilà, c'est une aventure forte. C'est l'adrénaline, c'est les rencontres avec des gens déments, dans des situations démentes, etc. Mais il y a aussi la responsabilité de raconter l'histoire. Donc,
l'histoire, vous la racontez donc par la vidéo, par l'écriture, par le documentaire. Vous faites très peu d'expositions, parce que je crois que vous avez un rapport assez délicat à l'esthétisation de la violence et vous n'avez pas très envie de voir vos photos accrochées à un mur, tandis que des gens boivent des coupes de champagne en se congratulant. Vous avez fait quand même quelques expositions, et notamment une qui est assez étonnante, une exposition de photomontage, qui s'appelait « Guerre ici, peur sur la ville », je crois. Et vous introduisiez dans ces montages, faits avec Paul Biota, des scènes de guerre ici à Paris. Pourquoi avoir fait ce choix d'une exposition de photomontage?
Alors d'abord, moi j'avais appelé ça effectivement « Guerre ici ». « Peur sur la ville », c'était le titre de match qu'ils avaient donné à... Ça avait été exposé pour la première fois
à Bayeux,
dans la rue. Ça faisait 10 ans que j'essayais de placer cette expo et que tout le monde me disait c'est trop anxiogène. J'aime bien ce mot. Ça aurait pu s'appeler anxiogène d'ailleurs, mais et finalement c'est Bayeux qui a décidé de le mettre dans la rue. On avait mis une grande photo d'un cadavre de tankiste russe avec la tour Eiffel derrière, posée sur l'esplanade du Trocadéro, devant une boucherie. J'avais demandé au boucher si ça le gênait, parce que la photo faisait 2 mètres sur 1,20 m. Et il m'avait dit non, c'est bien. Moi, quand j'étais enfant, j'ai ramassé des cadavres juste là, et il me montrait 300 mètres plus loin, des cadavres de soldats américains, des cadavres de soldats allemands. Et les jeunes ne savent pas ça. Donc c'est bien de leur rappeler ce que c'est que la guerre et que la paix est fragile. Donc j'ai fait ça parce que quelquefois je voyais des comportements de gens agressifs à Paris où les gens étaient prêts à s'entretuer pour une place de parking ou un regard de travers. Et je leur disais, mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez en fait. Donc est-ce qu'en montrant ce qui pourrait arriver... Ça peut leur faire comprendre qu'ils ont de la chance, qu'il ferait mieux d'être aimable. Bon, ça n'a pas marché du tout, en fait.
Ces images, elles ont été montrées en 2009, 2010, 5 ans après les attentats à Paris. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Est-ce que vous vous êtes dit, l'alerte?
J'étais effondré. Et en plus, il y a certains journaux qui ont repris mon expo. Alors ça, j'ai trouvé ça un petit peu limite, en disant, voilà, il y a quelqu'un qui y avait pensé avant. J'espère que c'est pas Daesh qui a regardé mes photos et qui s'est dit, c'est une bonne idée.
A priori, non.
Mais c'était affreux parce que j'étais ici, et donc je suis parti vers le Bataclan le lendemain. Alors c'est marrant parce que le réflexe que j'ai eu le soir, où on voyait les chiffres s'aligner, c'est juste là. Il y a 2 choses qui m'ont empêché d'y aller. J'ai eu le réflexe de rester là pour ma famille, en fait. J'arrivais pas, pour le coup, à les laisser. Je me suis dit, il vaut mieux que je sois là, on sait jamais, c'est au bout d'une impasse. Parce qu'à l'époque, on disait, au moment où ça se passait, que ça tirait partout.
Oui.
Qu'il y avait plusieurs attentats. Donc, dans le doute, mon premier rôle a été de rester près des miens. Ce qui est pas très réussi, j'aurais dû partir. Et le deuxième, c'est que ma vieille 750 que j'ai achetée en 70, ma moto, c'est une Honda 4 pattes, avait un retard à l'allumage. Donc quand je décélérais, ça faisait bang! Et je me serais fait flinguer.
Oui, c'était peut-être pas le meilleur soir pour faire ça.
Voilà, donc c'était pas une bonne idée. J'y suis allé le lendemain. Et le lendemain, il y avait encore beaucoup de traces et des impacts de balles sur une boulangerie, enfin des choses comme ça. Et des militaires et des policiers, le regard aux aguets, parce que c'était pas complètement fini, en tout cas la rumeur. Et j'étais sidéré, je me suis dit, je suis en train de vivre guerre ici, en fait. Là, j'ai récemment au mémorial de Caen qui loge mes archives, j'ai fait une photo de militaires en patrouille qui, à un moment donné, protègent les alentours du mémorial et l'intérieur du mémorial. Ils passent. À un moment donné, je crois que c'est l'heure du déjeuner, ils sont allés dans la librairie regarder les bouquins avec des fusils d'assaut et en tenue camouflée.
Vous évoquiez le mémorial de Caen. Ça, c'est, on va dire, votre actualité la plus récente. Vous avez confié toutes vos archives à ce mémorial-là, toujours dans un souci de transmission. Est-ce que vous pourriez m'expliquer à quoi correspond ce lieu qui vous est réservé dans cet espace de mémoire collective ?
Ben d'abord, c'est une chance incroyable, puisque le Stéphane Grimaldi, le directeur du mémorial, qui de temps en temps demandait à Rémi Urdan du Monde, ou à Jaulme, ou à Van der Stock, ou à moi, de participer à une conférence sur un thème donné, c'est en général l'offensive de Syrie, parler de la Syrie ou parler de ça. Et lui, il n'est pas intéressé par le reportage lui-même et la photographie, loin de là. Il c'est un musée, c'est un mémorial sur l'histoire avec un grand H. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on incarne un moment de l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il nous invite et que on se retrouve face à un public dans un amphi. Et là, il m'a proposé, il m'a dit, voilà, dans la logique de la suite, parce qu'évidemment, le mémorial parle de la Deuxième Guerre mondiale et du début de la guerre froide, la fin des guerres coloniales, et on arrive aux guerres d'aujourd'hui. Et à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir des Suisses qui m'ont appelé un jour de Lausanne en me disant, où sont vos archives ? On voudrait faire une fondation Chauvel. Donc, surprise, j'aurais dit, mais en fait, il n'est pas mort, Chauvel. Il m'a dit, bah, justement, ça va être plus simple. Pour les légendes, où sont vos archives ? Alors j'ai dit, bah, il y en a à droite, à gauche, dans une boîte à chaussures, peut-être encore à Sigma Corbis, peut-être à Match. Et ils m'ont dit, mais c'est pas normal, c'est un patrimoine, ça fait... Là, on était en 2014, en 2018, ça fera un demi-siècle de guerre à flux continu. C'est un patrimoine qu'il faut protéger, conserver. Donc ils ont financé pendant 4 ans la recherche. Mais ça a permis de digitaliser à peu près 80 000 photos et de classer 380 000 photos plus les 1000 heures de vidéos. Et à un moment donné, on avait ces archives, cet ensemble d'archives et Stéphane, qui est toujours à la recherche de choses pour augmenter la qualité du mémorial, à un moment donné, enfin, je dis ça sans prétention, hein, évidemment, mais m'a proposé de loger les archives. Il disait, il y a une logique que tes archives soient là-bas. Elles restent ma propriété, mais il m'a fait cette proposition. On te donne un double espace, c'est-à-dire un bureau où tes archives seront accessibles physiquement sur rendez-vous quand tu seras là. Ce serait bien que tu viennes, on va dire, 10 jours par mois à peu près. Et une expo permanente avec un résumé sur les 50 dernières années. Et on organiserait peut-être 2 fois par an, pas forcément plus, des semaines citoyennes où on parlerait à des universitaires, à des jeunes, à des historiens, à des lycéens, de l'histoire, pas de la photographie, mais en s'appuyant sur les photos et sur un témoignage direct. Donc c'est incroyable, c'est formidable d'avoir cette opportunité, cette chance-là, parce que le mémorial de Caen, c'est quoi ? C'est 500 000 entrées par an. Vous avez tous les lycées, toutes les écoles, tous les... Et donc, de se retrouver face à ces gens qui posent des questions et qui peuvent aller fouiller dans mes archives avec moi. Vous pouvez taper Kalachnikov et vous avez toutes les situations où il y a une Kalachnikov. Vous pouvez taper communisme, vous pouvez taper... Enfin, c'est dément. Et l'endroit est incroyable. Je ne sais pas si vous avez été au mémorial de Caen. C'est fabuleux, ça raconte tout. Donc quelquefois, j'y suis allé la semaine dernière pour reclasser des trucs et essayer de réfléchir à des programmes à proposer à Stéphane, à Monsieur Grimaldi, le directeur, pour voir si on pouvait faire vivre tout ça. Bon, évidemment, il y a eu
coronavirus,
voilà, qui a tout bloqué après l'ouverture, mais on garde espoir et on va faire avancer l'histoire.
Patrick Chauvel, là on comprend bien que c'est une façon pour vous
de raconter
encore une fois l'histoire, une nouvelle façon de raconter l'histoire en l'ancrant vraiment dans un lieu public. Vous évoquez à l'instant ce coronavirus qui a mis le monde à l'arrêt. Les guerres, elles, ne se sont pas arrêtées pendant ce temps-là. Comment vous avez vécu à distance, cette mise à l'arrêt, et est-ce que vous rongiez votre frein?
Oui, comme tout le monde, hein. Je veux dire, on est devenu un peu fou quand même.
Alors, est-ce que vous aviez envie de partir? D'aller là où vous êtes le plus utile?
Ben là, j'étais le plus utile avec ma famille, donc non, c'est un peu la réaction inverse. Il fallait que je sois sûr que tout le monde aille bien. Non, par contre, je trouvais qu'on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Je trouvais que la presse, bien sûr que c'était important d'en parler, mais il n'y avait pas que ça, comme vous le dites vous-même. Les combats continuaient en Syrie, les enfants continuaient à mourir en Irak, l'armée française continuait à patrouiller au Mali, etc. Mais c'est pas très populaire de parler de ce qui se passe loin. C'est malheureusement... les photographes qui gagnaient de l'argent à Sigma sont ceux qui faisaient le showbiz. Hein. Moi, une fois, je suis tombé nez à nez avec l'ami Bob Marley.
En 1980.
Oui, j'étais pas du tout là pour ça. Hein. J'étais venu faire les élections violentes en Jamaïque. Et au bout de 3 jours, ça s'est arrêté. J'avais juste demandé à mon chauffeur si Bob Marley habitait dans le coin. C'est la photo que j'ai le plus vendue. J'ai pu faire toutes les guerres qu'on imagine. Une photo de Bob Marley en train de fumer son pet devant moi a fait le tour du monde tous les ans. Donc voilà.
Cette histoire est assez incroyable. Malheureusement, on n'a pas le temps de la raconter. On arrive déjà à la fin de ces entretiens. Une toute dernière question, Patrick Chauvel. Où est-ce que vous allez repartir? Quel est le prochain reportage que vous souhaitez faire?
Bon, là, j'ai tout simplement envie de partir avec l'armée française au Mali parce que ils continuent à essayer de contenir cette folie. Ça intéressera pas les journaux parce qu'ils vont me répondre que ça a été fait 100 fois et que c'est sous contrôle. Voilà, c'est compliqué de faire des images, mais c'est pas grave. Encore une fois, bah, grâce au mémorial, elles seront au moins montrées là parce qu'on pourra changer les photos de l'expo. Donc là, c'est formidable parce que j'ai un socle où je peux, si ça n'intéresse personne, en tout cas les imposer et les mettre sur un mur. Et après, quand les gens les regardent, ils peuvent lire la légende ou venir me voir et on peut en parler. Donc ça c'est un sujet qui m'intéresse. Après, il y a cette guerre oubliée qui se passe en Thaïlande, dont on parle pas, dans le sud. Hein, il y a une révolte autonomiste des musulmans. C'est à la fois religieux et autonomiste, c'est-à-dire... C'est un ancien sultanat qui essaie de réclamer son indépendance. Sans ça, bah, j'écris aussi. Ça prend du temps.
2 livres à venir, je crois.
3.
3.
3. J'aimerais bien raconter l'amitié de Pierre et Jean-François. Le point de départ.
Votre oncle et votre
ça.
Père.
Ouais. C'est quand même eux qui m'ont fait rêver, qui m'ont montré la piste, le chemin à prendre. Avec l'œil bleu de mon grand-père qui supposait tout ça et qui avait dit à Kissinger, en me montrant dans le salon, c'est la décadence dans la famille. Moi, j'étais diplomate, j'avais le titre d'ambassadeur, j'écrivais, il était président des poètes de France, il écrivait des poèmes. Ensuite, mon fils, c'est mon grand-père qui parle, mon fils Jean-François Chauvel est journaliste.
Petite déchéance.
Petite déchéance. Et alors là, maintenant, mon petit-fils est photographe. Alors là, c'était la catastrophe, quoi.
D'une certaine façon, vous souhaitez, avec ce livre, boucler la boucle de votre vocation.
Moi, ce que j'aime, c'est raconter les histoires. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Que ce soit au mur ou pas. Alors, effectivement, j'avais pas envie de faire d'expo. Parce que, effectivement, j'en ai fait 3. Et à chaque fois, j'ai fait déplacer le cocktail, quoi. Non, pas sous les Syriens qui souffrent. Mettez le cocktail plus loin dans une autre pièce. Et je me suis assez vite aperçu que j'ai vu des expos aussi, de guerre. On rentre, on est impressionné par certaines images, on sort, mais en fait on sort pareil. C'est chiant. Et il se passe rien. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Enfin, je comprends, hein, qu'on fasse des expos parce que de toute façon il faut raconter. Alors même si vous avez que 2% des gens qui vont être touchés, après il y a les Suisses voudraient que je fasse un livre. Mais comment je vais faire? Déjà, avec Anna, ma femme, quand on a choisi les photos ici, pour Perpignan, ensuite pour Bayeux, ensuite pour le mémorial. Mémorial, c'est celui qui me donne le plus de place. C'est 120 photos. Ici, par terre, sur la moquette, il y avait 1500 photos. Et déjà, j'étais en colère parce qu'il en manquait au moins 4000. Et il fallait arriver à 120. Et quel livre je vais faire ? Je commence par quoi ? Je vais où ? Et je fais un livre de 1000 pages. Enfin, c'est débile. Enfin, je ne sais pas comment on va faire, mais il va falloir le faire. C'est compliqué, hein, parce que c'est un objet, en fait, un livre. Là, vous avez le livre de Noël Kidu, qui vient de sortir, qui est un collègue photographe extraordinaire, qui a fait un livre très fort. Mais ça reste un objet. Il ne va pas se vendre à plus de 2000 exemplaires. Hein. Et alors, évidemment, on ne fait pas ça pour l'argent, mais quand même, d'abord, il faut vivre. Et puis, en plus, l'éditeur, il ne peut pas s'en sortir. Ça coûte cher, un livre photo. On va voir. Après, maintenant, il y a le film aussi, qui est fait par Anna... Anna Pitoun, qui est réalisatrice à la demande des Suisses. Mais là aussi, c'est compliqué. Un film, c'est quoi le format d'un film ? 25 minutes, 52 minutes ? Elle est à 8 heures de film et elle n'a pas fini. Donc, comment on va faire ? C'est difficile de raconter 50 ans de guerre. Alors, il faut faire plusieurs livres. Ben, l'essentiel, c'est de raconter que les gens n'oublient jamais que c'est là. Qu'ils comprennent que ben, la paix n'est pas forcément l'élément naturel de l'homme. La paix, ça se travaille. Et les gens comprennent pas comment les intéresser. Moi, en rentrant du Cambodge, où j'avais été blessé, j'avais un bras dans le plâtre après un séjour à l'hôpital à Phnom Penh, et la jambe dans le plâtre, parce que j'avais le genou cassé, le coude cassé, et j'étais un peu bronzé, parce que ma convalescence se faisait dans les jardins de l'hôpital, Calmette, à Phnom Penh. Il faisait chaud. Mais c'était l'hiver en France, enfin au début de l'hiver. Non, c'était le printemps, je ne sais plus. Mais en tout cas, le chauffeur taxi me regarde au feu rouge dans le rétro. J'arrive de l'aéroport et il me dit « Vous étiez au ski ?» Je dis « Au ski ?» Oui, il y a des gens qui skient quand il fait beau. Là. Et vous étiez où ? Et je réponds pas parce que c'était de mauvaise humeur et j'avais pas envie de rentrer, j'étais pas content d'être cassé. Et à un moment donné, il me dit vous revenez d'où ? Je dis Phnom Penh. Et là il me regarde, il fait je connais pas cette station de ski, c'est où ? J'ai cru que j'allais l'étrangler. Je me suis dit mais ça sert à rien ce qu'on fait en fait. Ça faisait pratiquement un an que j'étais au Cambodge, j'envoyais des photos des combats, des bombardements, des... C'est quelle station ? Il y a bien un journaliste, un rédacteur en chef, que je ne nommerai pas, qui m'a répondu quand je lui ai dit que je voudrais faire un reportage sur Mossoul, qui m'a répondu on fait rien sur la Syrie en ce moment.
Raté.
Ouais, oups.
Merci beaucoup Patrick Chauvel de nous avoir reçus tout au long de cette semaine. On vous souhaite de continuer à nous raconter vos histoires et la guerre, la réalité de la guerre encore longtemps. Merci.
Merci à vous.
De cette rencontre d'Antoine Beauchamp avec Patrick Chauvel. À voix nue, réalisation Yvon Croisier, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.